Donc, cinquième séance de lecture de Schopenhauer. Et avant de poursuivre cette lecture, donc nous sommes le 30 janvier 2024. Donc, avant de poursuivre notre lecture, il me paraît donc utile de présenter de façon un peu synthétique les acquis de la séance précédente, celle du 19 décembre 2023. C'était une autre époque. Alors, nous avons vu comment Schopenhauer entend remonter des phénomènes. Alors, je réexplique le mot. Les phénomènes, ce sont les choses telles qu'elles se présentent à nous dans l'expérience, telles qu'elles nous apparaissent, telles qu'elles apparaissent à notre représentation. J'emploie le terme de Schopenhauer. La représentation qui s'effectue en vertu du principe de raison suffisante. Nous avons vu ça, le principe de raison suffisante, ce sont les structures, finalement, du sujet de la connaissance, qui sont au nombre de trois, la causalité, le temps et l'espace. Bon. Donc, il s'agit, donc, on avait vu, que pour Schopenhauer, il s'agissait de remonter des phénomènes à leur source non visible, à ce que le philosophe Kant appelle la chose en soi, et par chose en soi, il faut entendre la réalité telle qu'elle est en elle-même, dans son essence intime, indépendamment de la manière dont elle nous apparaît. Et, on l'a vu, Schopenhauer reprend cette fameuse distinction qui se trouve chez Kant, grand philosophe Kant, dont il est un héritier, Kant, fin du XVIIIe siècle, hein, et il reprend donc sa distinction entre la chose en soi et le phénomène. La chose en soi, je répète, c'est la chose telle qu'elle est en elle-même, indépendamment de la manière dont elle nous apparaît. Le phénomène, c'est la chose telle qu'elle nous apparaît en vertu des structures de notre connaissance. Donc le problème, évidemment, pour Schopenhauer, était de savoir si l'on peut accéder à la chose en soi. Étant entendu que, pour justement le philosophe Kant, la chose en soi est inaccessible, elle est inconnaissable. Schopenhauer prétend, lui, y accéder. Alors évidemment, cet accès est impossible par la voie de la représentation qui constitue notre connaissance. Évidemment, de cette façon-là, l'accès à la chose en soi est impossible. La représentation ne nous offre que des phénomènes, que les choses telles qu'elles nous apparaissent, en vertu des structures du sujet connaissant. Donc, cet accès est impossible par la voie de la représentation. En revanche, et c'est ça l'originalité de Schopenhauer, il estime que cet accès est possible par cette voie souterraine, j'emploie son expression, par cette voie souterraine que constitue la perception intime de notre propre corps. Et en tant que nous sommes des êtres corporels, en tant que nous sommes des corps, eh bien nous sommes à la fois phénomène et chose en soi. Nous sommes à la fois phénomène et chose en soi. Phénomène, en quel sens? Eh bien, en ce que notre corps nous apparaît extérieurement, comme n'importe quel objet du monde, comme n'importe quel objet du monde extérieur, à travers une série de manifestations sensibles, les expressions, les gestes, le comportement, les actions. Et à ce titre, notre corps est un objet que l'on peut observer, que l'on peut connaître, comme tout autre objet, encore une fois, en vertu des structures de notre représentation qui déterminent les conditions de possibilité de la connaissance. Bon, mais il est phénomène, mais il est aussi en même temps chose en soi. Et c'est le seul être que nous puissions percevoir de cette façon. nous percevons notre corps de l'intérieur. Nous l'éprouvons intérieurement comme une force qui impulse toutes les postures, tous les gestes, tous les comportements, toutes les actions que l'on peut observer de l'extérieur. C'est-à-dire que nous sommes en quelque sorte chose en soi, au sens où nous éprouvons notre corps comme une force intime, une force intérieure qui s'exprime à travers toutes ces manifestations visibles qui apparaissent, hein, phénoménalement. Donc vous voyez que notre corps nous est donné à la fois extérieurement, donc comme phénomène, et intérieurement comme une force intime, immédiatement appréhendée, que l'on désigne par le terme de volonté. Voilà le grand mot lâché. Alors, ces deux points de vue s'articulent. Hein ? Ces deux points de vue s'articulent, c'est-à-dire le point de vue extérieur et le point de vue intérieur. Ils sont inséparables. Les actions visibles du corps ne sont ainsi rien d'autre que des manifestations de cette force intérieure que nous appelons notre volonté. Notre volonté, c'est-à-dire cette force qui fait que nous éprouvons des désirs, des besoins, que nous avons des tendances et qui nous pousse à agir en conséquence. Ainsi, on peut dire, comme Schopenhauer, que notre corps est volonté. Notre corps est volonté. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est un point que nous avons vu, mais il faut y revenir. Nous avons vu que Schopenhauer récuse la conception dualiste, traditionnelle, pour laquelle la volonté et le corps sont deux réalités distinctes, qui agiraient l'une sur l'autre, comme s'il y avait une âme et un corps. Vous voyez ? Il récuse cette vision dualiste. Vision dualiste selon laquelle, au fond, un mouvement volontaire, je lève le bras, est l'effet d'une décision préalable de l'âme, de l'esprit, si vous voulez, sur le corps. Vous avez d'abord l'âme, en quelque sorte l'esprit, qui décide, et puis ensuite le corps qui obéit. Eh bien, cette représentation est fausse. Il n'y a pas l'âme et le corps. Il y a le corps, tout simplement, qui manifeste des actes, hein, le corps qui est volonté et qui manifeste, il se manifeste par des actes. Donc vous voyez que pour Schopenhauer, ma volonté et mon corps sont une seule et même chose. Ou, plus précisément, mon corps n'est en lui-même que ma volonté faite corps. Ma volonté est devenue visible. Ma volonté en tant qu'elle se manifeste. Ma volonté en tant qu'elle s'objective. Et là, j'emploie exprès un verbe qui va être utilisé assez souvent par Schopenhauer. Ma volonté qui s'objective, qui se manifeste, qui devient visible. Donc, de la perception intime de mon corps découle pour Schopenhauer l'affirmation d'une volonté universelle qui est présente en toute chose. Et on a vu que cette perception intime de mon corps constitue, je cite Schopenhauer, la clé qui nous permet de pénétrer jusqu'à l'essence de tous les phénomènes de la nature. Hein, la clé qui nous permet de pénétrer jusqu'à l'essence de tous les phénomènes de la nature. C'est-à-dire que, alors je ne reviens pas trop sur l'explication, hein, mais si vous voulez, l'idée est assez simple. L'expérience que je fais de ma volonté et de ses manifestations par des actions visibles de mon corps, eh bien, cette expérience que je fais de ma volonté n'est qu'une expression particulière, une expression individualisée d'un principe plus vaste d'une volonté, avec un grand V majuscule, unique et universelle, qui est présente dans l'univers entier et qui est, au fond, présente en chaque être, en chaque corps. Vous voyez ? C'est ça la nouveauté du discours de Schopenhauer. C'est-à-dire, ce que je vis intérieurement comme ma volonté, c'est, au fond, une expression particulière d'un principe beaucoup plus vaste, la volonté. Alors, pour éviter les confusions, certains traducteurs disent plutôt le vouloir qui est présent, donc en chaque chose. Cette force qui est présente, au fond, en chaque être, en chaque chose. Et je vous invite à relire le texte que vous trouverez, page 1, donc le premier texte en haut à gauche, je ne dis pas entièrement, je dis le début. Ce n'est pas seulement dans les phénomènes tout semblables aux siens propres, chez les hommes et les animaux, qu'il retrouvera comme essence intime cette même volonté, mais un peu de réflexion l'amènera à reconnaître que l'universalité des phénomènes, si divers pour la représentation, a une seule et même essence, la même qui lui est intimement, immédiatement et mieux que tout autre connue, celle-là enfin qui, dans la manifestation la plus apparente, porte le nom de volonté. Vous voyez donc, la volonté universelle, donc c'est un principe constitutif de tous les êtres, de même que ma volonté, hein, en quelque sorte, est une expression particulière de cette volonté, hein, dont tous les êtres participent. C'est-à-dire tous les êtres, quels qu'ils soient, sont constitués par une seule et même force, qui est la volonté universelle. Alors, ça ne veut pas dire que la volonté universelle se manifeste de manière identique en tous les êtres. Je ne suis pas en train de dire que la volonté en l'homme se manifeste de la même manière que celle d'une plante, d'un animal, puisque effectivement, il faut bien dire que la volonté, elle est présente en toutes choses, même dans les choses animées, même dans les choses inanimées, pardon. Alors, c'est pour ça que je vous invite à lire la fin du texte, là, que nous sommes en train de regarder, ligne 25. La volonté est la substance intime, le noyau de toute chose particulière, comme de l'ensemble. C'est elle qui se manifeste dans la force naturelle aveugle, c'est-à-dire par exemple la pesanteur. Elle se retrouve dans la conduite raisonnée de l'homme. Si toutes deux diffèrent si profondément, c'est en degré et non en essence. Alors là, il faut bien comprendre. Alors ça fait bizarre, c'est assez curieux, c'est assez étrange d'entendre dire que la pesanteur, cette force naturelle, est une expression de la volonté. Au même titre que notre volonté. Vous voyez, effectivement, ça peut paraître étrange, bizarre, ça peut même paraître une sorte de coup de force, hein, théorique. Bon, alors, évidemment, c'est ce que dit effectivement Schopenhauer. Mais attention, ça ne veut pas dire que cette force qu'est la pesanteur, qui attire, au fond, un corps vers le sol est exactement identique à notre volonté. Ça ne veut pas dire ça. Et la même volonté est présente en tous les corps, mais elle se manifeste de façon différente selon le type de corps. Hein? Et d'ailleurs, Schopenhauer va parler de degré d'objectivation. C'est-à-dire que la volonté s'objective selon plusieurs degrés. Donc, soyons clairs, hein, l'affirmation d'une volonté universelle, présente en toute chose, ne revient pas à attribuer à tous les êtres une volonté identique à celle des hommes. Il faut être clair. Sinon, ce serait de l'anthropomorphisme un peu stupide. Donc cette affirmation d'une volonté universelle se fait d'ailleurs au prix d'une transformation conceptuelle de la notion de volonté. Contrairement à l'usage traditionnel de la notion, la volonté désormais ne renvoie plus à un mouvement conscient. C'est comme ça que nous nous la représentons. Hein. Quand nous parlons, nous, de la volonté, nous nous représentons la volonté comme un mouvement conscient qui ne concerne que des êtres comme nous, qui disposent d'un esprit. Hein. C'est comme ça que nous en parlons. Eh bien là, évidemment, Schopenhauer s'écarte de cette conception. Hein. La volonté ne renvoie plus à un mouvement conscient, mais elle désigne une puissance aveugle qui est à l'œuvre à toutes les échelles de la nature et dont l'activité est sans but. Et ce n'est qu'en l'homme qu'elle s'exprime en étant accompagnée de conscience sous la forme d'une conscience qui poursuit des buts. Ce n'est qu'en l'homme qu'elle se manifeste ainsi. Mais vous voyez, ça ne veut pas dire qu'elle n'est présente qu'en l'homme. Elle est présente en toute chose, sauf qu'en l'homme, elle se manifeste accompagnée de conscience, accompagnée de réflexion. Ainsi, la volonté universelle, qui est au principe de toute chose, qui constitue le fond de la réalité, c'est ça le fond de la réalité pour Schopenhauer, hein, eh bien cette volonté universelle est une puissance cosmique, aveugle et immanente à tous les phénomènes, c'est-à-dire qu'elle est dedans chaque chose, phénomène, toutes les choses telles qu'elles apparaissent. Et nous sommes, en ce sens aussi, nous, des phénomènes. Parce que nous, hein, quand je vous vois, je vous vois à travers les structures de ma représentation. Hein, vous êtes aussi des phénomènes. Bon, je suis un phénomène pour vous. Donc, la volonté universelle, c'est une puissance aveugle, cosmique, immanente à tous les phénomènes, qu'on ne peut aucunement identifier à un Dieu qui agirait intentionnellement. Parce que c'est une objection qui m'a été faite, donc j'y reviens. Oui, mais est-ce que quand Schopenhauer parle d'une puissance cosmique universelle, au fond, il ne parle pas d'un Dieu ? Non, non, parce qu'un Dieu, normalement un Dieu, sauf pour Spinoza, un Dieu, c'est un être qui doté d'intention, hein, c'est une volonté, hein, pour les religions. Bon, évidemment, là, cette puissance cosmique dont parle ici Schopenhauer est dénuée d'intention. C'est une puissance qui s'affirme de manière aveugle. Vous voyez ? Il n'y a pas d'intention qui préside à son exercice. Vous voyez ? Donc, le monde a pour essence la volonté. Vous voyez ce que veut dire le titre, le monde comme volonté. Le monde a pour essence la volonté, et tous les phénomènes de la nature, aussi divers qu'ils soient, peuvent être considérés comme des manifestations de cette volonté, comme des objectivations de cette volonté. Vous voyez, comme ça qu'on peut présenter les choses. Et vous voyez que l'affirmation de la volonté, comme chose en soi, la volonté, c'est elle la chose en soi. Eh bien, la volonté comme essence du monde, comme chose en soi, doit bien sûr être posée avec prudence et dans ses limites. Et ici, il faut être précis. Alors, je ne reviens pas là-dessus. Nous avons vu que son affirmation repose sur un raisonnement analogique à partir de la perception intime de notre propre corps, qui pose problème. C'est un raisonnement, hein, nous avons discuté là-dessus, hein, c'est un raisonnement qui peut nous paraître problématique et discutable. Je ne reviens pas sur ce point. Je fais comme si, effectivement, les choses étaient claires, hein, étaient admises. Toujours est-il que il s'agit là quand je parle de volonté universelle, il s'agit là d'une affirmation qui ne relève pas de la représentation. Je reprends ce terme, hein, parce que nous avons beaucoup réfléchi là-dessus. La représentation, c'est le monde tel. Enfin, c'est au fond ce qui fait que je perçois le monde, hein, en tant que sujet. La représentation, finalement, c'est ce qui conditionne notre connaissance, hein, la connaissance que nous avons des phénomènes. Bon, je redis ce que j'ai à plusieurs reprises déjà dit, hein. À proprement parler, il n'y a pas de connaissance de la volonté, au sens traditionnel du terme. Puisqu'il n'y a de connaissance que des phénomènes, hein, au sens strict du terme. Donc, alors oui, il y a une connaissance de la volonté, mais elle n'est pas du même ordre que ce que nous appelons ordinairement la connaissance. Puisque la saisie, au fond, de cette volonté repose sur une expérience intime, approximative, approchante, je ne rentre pas là-dedans, je ne rentre pas dans la difficulté du texte, qui, en tout cas, n'a rien de comparable avec la connaissance que nous avons des objets extérieurs. Bon. Et dans la mesure où la volonté échappe à notre représentation, dans la mesure où elle échappe aux structures de notre esprit, de notre sujet connaissant, qui conditionne cette représentation, eh bien, la volonté, c'est ce que nous allons voir maintenant, n'est soumise ni à la causalité, ni au temps, ni à l'espace. Puisque, rappelez-vous, la causalité, le temps et l'espace, ce sont les structures qui conditionnent toute connaissance. Ce sont les structures du sujet connaissant. Hein ? Eh bien, étant entendu que ce sont des structures qui conditionnent la connaissance que nous avons des phénomènes. Mais comme la volonté n'est pas justement phénomène, elle n'apparaît pas, hein, elle est à la source des phénomènes, mais elle n'est pas phénomène. Comme la volonté est chose en soi, eh bien elle échappe à la représentation. On est d'accord. Bon. Donc, la volonté, donc comme principe universel, eh bien, nous allons voir, c'est la chose en soi, pour reprendre le terme de Kant, c'est la chose en soi qui est sans raison, on va comprendre pourquoi, et qui ne connaît ni l'espace ni le temps. Donc, vous voyez, puisqu'elle est en dehors de toute représentation, puisqu'elle est chose en soi, la volonté est sans raison, elle ne connaît ni l'espace ni le temps. Alors, je développe. D'abord, la volonté est sans cause et sans raison, puisque la causalité, comme nous l'avons vu, c'est un principe du sujet connaissant, un principe de notre représentation, qui règle la manière dont nous appréhendons les phénomènes dans l'expérience. La causalité, elle règle la manière dont nous appréhendons les phénomènes dans l'expérience. Je prends un exemple. Un phénomène comme le gel de l'eau est engendré par la chaleur. La chaleur est la cause du gel de l'eau. Bon. Je crois que je me suis égaré. Non, c'est le froid. Le froid. Mais je suis dans un autre monde. C'est le froid qui entraîne le gel de l'eau. Donc, effectivement, là, vous avez une cause, un effet. Hein, un phénomène qui est la cause d'un autre phénomène, qui, à son tour, entraîne un autre phénomène, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous appréhendons les phénomènes, selon la relation de cause à effet. Bon. La volonté, comme chose en soi, n'est pas soumise à la causalité, hein, puisqu'elle n'est pas phénomène. Elle n'est pas soumise à la causalité, elle est sans raison. Elle est sans raison. D'autre part, elle n'est pas non plus soumise au temps et à l'espace, qui sont les structures de notre sensibilité, à travers lesquelles les choses nous apparaissent dans l'expérience. Hein ? Je reprends ce que j'ai déjà dit, hein. L'espace et le temps, ce sont des structures de la sensibilité à travers lesquelles les choses nous apparaissent. Bon. La volonté, comme chose en soi, n'est soumise ni au temps ni à l'espace. Parce qu'elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas. Or, c'est par l'espace et le temps que les phénomènes nous apparaissent dans leur pluralité, distinctement les uns des autres. C'est par leur situation dans l'espace et dans le temps, les uns à l'égard des autres, que les phénomènes ne se confondent pas, qu'ils se distinguent, et qui constituent pour nous des réalités différentes. Les phénomènes nous apparaissent tous comme des réalités individuelles, comme des objets particuliers, parce qu'ils sont situés dans l'espace et le temps, distinctement des autres phénomènes. Et, selon Schopenhauer, l'espace et le temps constituent ce qu'il appelle le principe d'individuation des phénomènes. Le principe d'individuation des phénomènes, c'est-à-dire au fond le principe par lequel les phénomènes se distinguent les uns des autres. Le phénomène par lequel il y a des individus, si vous voulez. Le principe par lequel il y a des individus. Donc, principe d'individuation, c'est ce par quoi tout phénomène apparaît comme un objet particulier, comme une réalité individuelle. Eh bien, cette pluralité ne concerne que les phénomènes. Mais cette pluralité ne concerne pas la chose en soi. Il n'y a de pluralité qu'au niveau des phénomènes, qui se distinguent parce qu'ils sont dans l'espace et le temps. Mais la chose en soi qui échappe à toute représentation, eh bien, elle ne connaît pas la pluralité. Cette chose en soi, c'est le fond invisible, c'est cette volonté qui est à la source de tous les phénomènes. Cette volonté, elle est une et indivisible. On ne peut pas parler de la volonté de manière plurielle. N'étant soumise ni au temps ni à l'espace, échappant par principe à toute représentation, eh bien la volonté, donc, ne saurait être par elle-même plurielle. Ainsi, d'elle seule, on peut affirmer qu'elle est une et indivisible, qu'elle est sans cause et sans raison, qu'elle est sans but, et qu'il s'agit là d'une tendance fondamentale, unique et absolue, qui est présente en toute chose. Alors, cette volonté une et indivisible, la chose en soi, sans cause et sans raison, donne lieu, à travers la représentation, à une pluralité de phénomènes. Elle donne lieu, au niveau phénoménal, à la représentation, elle donne lieu à une pluralité, à une multiplicité de phénomènes. Elle se manifeste à travers une pluralité de phénomènes. Dès lors, la question est de savoir de quelle manière la volonté, comme principe unique et absolu, qui constitue l'essence du monde, de quelle manière la volonté se manifeste justement en une pluralité de phénomènes. De quelle manière elle se manifeste ainsi? Alors, dans cette pluralité, oui, c'est le moment un peu spéculatif du propos de Schopenhauer que je développe. Dans cette pluralité, on reconnaît des formes générales, des formes spécifiques, qui témoignent à chaque fois de ce que Schopenhauer appelle les degrés d'objectivation de la volonté. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça paraît comme ça, apparemment compliqué, ça ne l'est pas. C'est-à-dire, au fond, la volonté, elle se manifeste selon plusieurs degrés d'objectivation, à plusieurs niveaux, si vous voulez, selon des formes générales. Et avant de se manifester en une multiplicité d'individus, elle se manifeste en plusieurs formes générales sous lesquelles se rangent ces individus. Vous voyez, c'est-à-dire que les individus, ils se manifestent comme homme, comme plante, comme animal, vous voyez, ils se manifestent sous une forme générale, vous voyez, ils appartiennent à une certaine espèce, vous voyez. Voilà ce que je suis simplement en train de vous dire. Et la volonté, eh bien, elle se manifeste selon plusieurs formes générales auxquelles, justement, on peut rattacher les individus que nous observons, que nous voyons concrètement. Donc ces objectivations correspondent, pour Schopenhauer, à ce que le philosophe Platon, oui, se réclame de Platon, tout aussi bien que de Kant. Eh bien, elles correspondent, ces objectivations, à ce que le philosophe Platon entendait par les idées, avec un I majuscule. Les idées, hein, il faut employer le mot avec un I majuscule, parce que pour Platon, les idées, ce ne sont pas des représentations simplement mentales. Vous voyez, quand nous parlons des idées avec un petit I, ce sont des représentations mentales que nous nous faisons. Non, les idées, pour Platon, ce sont des réalités. Ce sont des réalités, mais des réalités intelligibles, des réalités idéales. Vous voyez ? Et selon Platon, les idées, avec un I majuscule, désignent donc les formes primordiales auxquelles se rapportent les réalités, les choses dont nous avons l'expérience sensible. Je prends un exemple. Telle plante, tel animal, tel homme peut être considéré comme un exemplaire sensible d'une réalité intelligible que Platon appelle une idée. Vous voyez, l'idée d'homme, c'est ce qui fait que nous sommes hommes. L'idée d'animal, c'est ce qui fait qu'un animal est un animal. Vous voyez, c'est-à-dire que, au fond, on pourrait dire l'espèce, hein, serait tout aussi juste. Hein. Et sans cette idée, sans cette réalité intelligible qui fait que nous sommes ce que nous sommes, homme, plante, animal, eh bien, sans cette idée, au fond, les choses n'auraient aucune consistance. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'au fond, la réalité, c'est ce qui structure un être comme un cheval, un chien, ou je ne sais quoi. Vous voyez ? Donc, vous voyez, ce qui fait qu'une plante est une plante, donc voilà, c'est ça l'idée, et c'est ce qui fait qu'elle se rattache, c'est que cette plante que je vois se rattache à l'idée de plante dont elle est un exemplaire. Et c'est par le rapport que les choses sensibles que je vois entretiennent avec les idées, eh bien qu'elles peuvent être connues, qu'elles peuvent être l'objet d'une connaissance. C'est parce que j'identifie ce chien comme un chien, je le rapporte à l'idée de chien, que je peux justement le connaître, que je peux en étudier les propriétés. Vous voyez, c'est comme ça que, au fond, nous procédons. Donc, les idées représentent en ce sens ce que on entend par l'essence de tout être sensible. Les idées représentent l'essence de tout être sensible. Les idées, elles sont ce qui fait que cet être sensible, ce chien, est un chien, puisque je le rapporte à l'idée de chien. Voilà. Chaque être sensible est un exemplaire éphémère, au fond de son modèle éternel et intelligible, de son idée, hein, auquel il se rapporte. Alors, cette reprise des idées de Platon par Schopenhauer, c'est vrai qu'il reprend cette théorie des idées. Hein. Cette reprise des idées de Platon par Schopenhauer peut avoir quelque chose d'un peu déconcertant. Mais ces idées sont quand même éclairantes. Hein. Elles correspondent, comme je vous l'ai dit, à des formes générales, à des formes spécifiques des phénomènes, à des prototypes en quelque sorte, selon la manière dont la volonté universelle s'exprime à travers elle, selon la manière dont elle s'objective, je reprends ici le verbe de Schopenhauer. Et chaque réalité individuelle peut se rapporter donc à une forme spécifique qui est un degré particulier d'objectivation de la volonté. Alors, je vous renvoie à un deuxième texte, toujours sur la même page, page 1. C'est le texte qui est au milieu. On va le lire. Il est dans le livre 2, qui justement a pour titre « L'objectivation de la volonté ». Alors, c'est très simple. En conséquence, ce qui va suivre, et ce qui s'est imposé déjà lui-même à l'esprit de tout disciple de Platon, sera l'objet dans le livre suivant de longues considérations, c'est que ces différents degrés de l'objectivation de la volonté, qui sont exprimés dans la multiplicité des individus comme leur prototype ou comme les formes éternelles des choses, ces formes n'entrent pas dans l'espace et dans le temps, milieu propre à l'individu. Elles sont fixes, non soumises au changement, leur existence est toujours actuelle, elles ne deviennent pas, tandis que les individus naissent et meurent, deviennent toujours et ne sont jamais. Or, ces degrés de l'objectivation de la chose... Bon, alors, intéressant, c'est-à-dire, au fond, finalement, les individus naissent et périssent, les hommes naissent et meurent, ils deviennent, ils ne sont pas permanents, il n'y a aucune fixité à ce niveau-là. Par contre, les idées sont éternelles, elles demeurent. L'idée de chien demeure. L'espèce canine demeure. Les individus qui appartiennent à cette espèce sont des exemplaires de cette espèce, mais ce sont des exemplaires éphémères. Alors, vous noterez une chose, c'est que si vous prenez la théorie de Schopenhauer au sérieux, il exclut toute forme d'évolutionnisme. Il y a une fixité des espèces. Et ça, c'est qu'il faut le dire tout de même au passage. C'est vrai qu'il écrit pas beaucoup de temps avant Darwin. Vous voyez, là, on peut le dire, on peut le dire au passage tout de même. C'est vrai que là, il y a quelque chose dans sa thèse qui, évidemment, pose problème. Je ne le cache pas. Vous voyez ? Alors, évidemment, maintenant, pourquoi parler de degré d'objectivation de la volonté. Je l'ai déjà dit d'une certaine façon, mais je reprends l'idée. Parce que la volonté universelle se manifeste différemment selon les différentes strates du monde. Mais elle ne s'exprime pas seulement différemment, elle s'exprime de manière, je dirais, il y a tout de même une hiérarchie des degrés d'objectivation. On va du plus obscur au plus clair, comme vous allez voir. Tous les phénomènes de la nature expriment la volonté, ils ne font pas de la même manière, et il y a ainsi une différence de degré d'objectivation entre la pierre qui est soumise à un jeu de forces simples, comme la pesanteur, et puis l'homme, qui incarne au plus haut degré cette volonté et sa complexité. Vous voyez ? Donc vous allez voir, il y a au plus bas degré, il y a au niveau minéral, au niveau inorganique, vous avez au fond les forces naturelles comme la pesanteur, et puis au plus haut degré, vous allez avoir effectivement la volonté de l'homme qui s'accompagne de conscience, de réflexion. Alors le degré le plus simple, le plus élémentaire, à travers lequel la volonté se manifeste, donc dans la matière inorganique, c'est, comme le dit, et là on va reprendre un autre texte, le troisième, c'est comme le dit Schopenhauer, la poussée aveugle, c'est-à-dire la tendance inlassable qui conduit par exemple les corps à s'attirer les uns les autres, la gravitation par exemple. Donc là, on reconnaît la force naturelle de la pesanteur, qui est l'objet de la physique. Bon, alors regardez le texte, le troisième texte, pas au moins le début, comme ça, c'est pas compliqué. Ainsi, nous avons vu au degré le plus bas la volonté nous apparaître comme une poussée aveugle, comme un effort mystérieux et sourd, éloigné de toute conscience immédiate. Rappelez-vous ce que nous disions de la pesanteur, c'est-à-dire que on peut expliquer, on peut pas. C'est une force qui échappe à l'investigation, vous savez, mais qu'il ne peut que présupposer. Vous voyez, il y a quelque chose de mystérieux dans cette force. Bon, ben, effectivement, cette force, cette poussée aveugle, c'est la volonté. C'est la volonté dans son premier degré d'objectivation qui se situe au niveau de la matière inorganique. Vous voyez ? Bon, ensuite, c'est l'espèce, poursuit ma lecture, c'est l'espèce la plus simple et la plus faible de ces objectivations. En tant que poussée aveugle et effort inconscient, elle se manifeste dans toute la nature inorganique, dans toute force première, dont c'est le rôle de la physique et de la chimie de chercher à connaître les lois, et dont chacune nous apparaît dans des millions de phénomènes tout à fait semblables et réguliers, ne portant aucune trace de caractère individuel. C'est-à-dire qu'au niveau de la matière inorganique, les forces s'expriment identiquement en tous les êtres. Il n'y a pas d'individualité, si vous voulez. Hein, il n'y a aucune individualité. Alors, après, si on va au degré supérieur, à un degré plus élevé, au niveau végétal, ben, la volonté, on a déjà dit un peu déjà, la volonté agit non plus comme simple cause, mais comme excitation, c'est le terme employé par Schopenhauer, excitation qui stimule les plantes à se développer, à plonger dans le sol leurs racines, à la rencontre de l'humidité, à tourner leurs tiges vers l'ensoleillement, à transformer peu à peu en feuilles, en bourgeons, en fruits, ce qu'elles tirent de leur environnement. Vous voyez, il y a un développement qui n'est pas du même ordre, hein, bien sûr, c'est plus complexe. Et tout cet effort, là encore, est inconscient, par contre. Là encore, vous êtes même... ben bien sûr, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe au niveau inorganique, mais l'effort, la volonté, ici, s'exprime d'une manière inconsciente. Hein. C'est un processus inconscient, hein, qui joue. Et même si, bien sûr, la volonté présente ici une forme plus subtile que celle que l'on rencontrait d'abord dans le minéral et dans l'inorganique. À un degré supérieur, la volonté apparaît comme motivation, c'est le terme employé par Schopenhauer. Elle apparaît comme motivation chez l'animal. C'est-à-dire que dans sa recherche active de la nourriture dont il a besoin, comme de la congénère avec laquelle il s'accouplera pour perpétuer l'espèce, le réarmement démographique, eh bien, l'animal, effectivement, agit selon des motifs. Hein, il agit selon des motifs. Alors, vous voyez, il y a déjà une motivation. Et cette motivation suppose déjà une forme primitive de connaissance, une certaine aptitude à la représentation, qui permet à l'animal de repérer les réalités qui lui conviennent. Hein ? Ainsi, vous voyez, dès l'animalité, dès l'animal, la volonté se manifeste comme représentation. Elle se manifeste comme représentation. Mais alors, évidemment, c'est chez l'homme, qui est un animal. Hein ? C'est chez l'homme, cet animal qui est capable de s'abstraire de la sensation immédiate, de se représenter un passé et d'anticiper un futur qui annonce sa mort inévitable, eh bien, c'est chez l'homme que la volonté se manifeste dans son degré le plus haut, comme volonté qui s'accompagne de conscience, qui s'accompagne de représentation. Vous voyez ? C'est chez l'homme, effectivement, que la volonté s'accompagne pleinement de la représentation. Et vous voyez que dans la hiérarchie des phénomènes, l'homme occupe donc une place privilégiée. Mais attention, il faut encore redire à nouveau, hein, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, si l'essence de chaque phénomène est identique, si la volonté est présente en toute chose comme le noyau intime de chaque être, la volonté humaine en est la forme la plus élevée, la plus rare. Elle est le degré d'objectivation le plus élevé. En l'homme, la volonté se présente accompagnée de réflexion. L'homme ne vit plus dans la nuit de l'inconscience, hein, si vous voulez. Et la réflexion, on a déjà eu l'occasion de le dire, la réflexion lui permet de se saisir lui-même comme sujet, vous voyez, face au monde. C'est donc au niveau de l'homme, c'est avec l'homme, que la volonté accède à des lumières sur elle-même, puisque c'est en l'homme, et c'est par l'homme, qu'elle s'élève à la connaissance d'elle-même, l'homme étant cet être qui est capable de la reconnaître dans son essence, métaphysiquement, comme le principe unique qui est à la source de tous les phénomènes. Et c'est pourquoi que dans le livre 4, du monde comme volonté et comme représentation, Schopenhauer écrit cette phrase qui peut paraître très étrange, mais qui va pouvoir se comprendre, puisque nous sommes en train d'expliquer. Il écrit que l'homme, c'est la nature arrivée au plus haut degré de la conscience de soi-même. C'est-à-dire que comme l'homme que nous sommes, l'espèce, les hommes que nous sommes, eh bien, ils ne sont pas autre chose que la nature, mais qui atteint en quelque sorte son sommet en accédant à la connaissance d'elle-même. Ce n'est pas l'homme qui se connaît distinctement du reste de la nature, non, c'est l'homme, c'est la nature en tant qu'elle accède en quelque sorte à la connaissance d'elle-même. Vous voyez ? Mais attention, contresens. Si par son aptitude à la réflexion, l'homme constitue une exception, cette exception ne fait pas de lui pour autant un être à part. Entre l'animal et l'homme, il n'y a pas de différence de nature, il y a seulement une différence de degré. J'insiste là-dessus. Comme les animaux, les hommes sont en proie à une sensibilité, à des besoins, à des pulsions. C'est-à-dire que la volonté, c'est ce qui émane du corps, c'est ce qui fait que nous avons des désirs, des pulsions, des tendances, hein. C'est quelque chose d'animal, la volonté, hein. Vous voyez, c'est une force affective, si vous voulez. Et comme tout corps, les hommes sont soumis aux lois physiques de la nature. Alors, vous voyez où est le risque de contresens, hein ? C'est que les hommes se font illusion sur eux-mêmes quand ils croient que leur volonté est le pur produit de leur réflexion. Quand ils considèrent leur volonté comme la pure expression de leur spiritualité. Et quand ils s'appréhendent comme de purs esprits, comme des âmes distinctes d'un corps. Vous voyez, ça non. Encore une fois, Schopenhauer récuse ce dualisme. Et ce dualisme, évidemment, il repose sur une illusion. L'homme, pour employer l'expression de Spinoza, et là, effectivement, Schopenhauer sera assez d'accord, l'homme n'est pas comme un empire dans un empire. Hein ? L'homme, c'est la nature, hein, qui s'exprime en lui, comme en tous les êtres, mais qui s'y exprime de manière plus élaborée, plus complexe, et qui parvient à la connaissance d'elle-même. Donc, la volonté, c'est pas quelque chose qui émane de la réflexion. C'est quelque chose qui n'a d'ailleurs même pas besoin de la réflexion pour exister. C'est-à-dire que les hommes, hein, en se faisant cette illusion, les hommes méconnaissent le fait que la volonté n'est rien d'autre que leur corps, qu'elle ne doit rien à la réflexion et qu'elle ne doit rien à la représentation de manière générale. C'est-à-dire qu'ils méconnaissent le fait qu'elle est une énergie universelle, une énergie aveugle, qui s'exerce en toute chose, que la réflexion l'accompagne ou non. Vous voyez ? La réflexion n'y fait rien. Et ça, c'est très important, il faut bien le retenir, parce que quand nous passerons à l'analyse du désir, ben, cette idée, elle sera très importante. Parce que, j'anticipe un peu, quand nous représentons le désir, nous le représentons comme, au fond, un mouvement qui est animé par une représentation. C'est parce que je me représente l'objet que je désire. Hein ? Vous voyez, je fais de la représentation de l'objet la cause de mon désir. C'est une idée fausse. C'est une idée fausse. Le désir, c'est une force aveugle qui s'accompagne de représentation, oui. Mais ce n'est pas l'objet désiré qui est la cause du fait que je le désire. Là aussi, ça ressemble pas mal à Spinoza. Hein, mais bon. Oui, bon, on reverra ce point. Alors, une fois l'essence du monde élucidée, l'essence du monde, c'est la volonté. Eh bien, il est possible de revenir à la question initiale. La question initiale qui suscite justement l'étonnement philosophique. Et ici, souvenez-vous que cet étonnement est provoqué par le spectacle universel du mal dans le monde. Le mal, quand je parle du mal, je parle du mal sous toutes ses formes, aussi bien celui que nous subissons, la souffrance, que celui que nous infligeons, l'injustice. Souvenez-vous, hein, c'est ce que nous avions dit au début. Hein, qu'est-ce qui fait que nous nous mettons à philosopher? Qu'est-ce qui suscite l'interrogation philosophique? C'est l'étonnement devant le spectacle du mal. Devant le spectacle universel du mal. Eh bien, la question du mal, donc, comme le disait Schopenhauer, c'est une question à laquelle doit se confronter toute philosophie authentique, sans chercher des faux fuyants. Et vous vous souvenez, hein, Schopenhauer écarte toutes les théories qui visent d'une manière ou d'une autre à refouler l'existence du mal. Alors, deux exemples. Par exemple, la doctrine du péché originel. La doctrine du péché originel qui consiste à expliquer le mal comme la conséquence d'une faute humaine. Et pourquoi ? Cette doctrine du péché originel, parce qu'il s'agit d'innocenter Dieu, en quelque sorte, la création est bonne. Le mal est venu par l'homme. C'est de la faute de l'homme. Vous voyez ? Explication psychologique, qui paraît à Schopenhauer une explication superficielle. Deuxième doctrine hein, que nous avions, et que nous reviendrons, hein, nous y reviendrons tout à l'heure, deuxième doctrine qui est vraiment... la cible de Schopenhauer, la doctrine de l'optimisme universel, la philosophie de Leibniz, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Doctrine, pas aussi bête que ce que Voltaire nous en dit. Hein. Doctrine qui, si vous voulez, qui pour Schopenhauer domine toute la philosophie occidentale, d'une manière ou d'une autre. Et doctrine qui consiste au fond à relativiser l'existence du mal en justifiant son existence. On relativise l'existence du mal en justifiant son existence, puisque au fond, certes le mal est présent, mais on peut en justifier l'existence si on examine au fond le plan de la création divine. Si on comprend que Dieu a créé le meilleur des mondes possibles. J'ai déjà expliquer cela, mais bon, là, je ne vais pas m'étendre. Alors, vous voyez, ce genre de doctrine n'affronte absolument pas, pour Schopenhauer, la question du mal. Elle ne considère pas le mal à sa source. Et pour Schopenhauer, c'est dans l'être même, c'est dans l'essence du monde qu'il faut chercher l'origine du mal. Vous voyez, c'est en, justement, en élucidant effectivement l'énigme du monde, hein, en comprenant en quoi consiste l'essence du monde, qu'on va pouvoir effectivement avoir une réponse à la question d'où vient le mal. Et vous avez un paragraphe très important dans le monde comme volonté et comme représentation, qui aborde cette question métaphysiquement, c'est le paragraphe 27. Alors, d'où vient le mal ? Eh bien, il provient précisément du fait que la volonté, qui encore une fois est une et indivisible en son essence, la volonté se manifeste en une pluralité de phénomènes. Donc, je répète, le mal vient du fait que la volonté, qui est une et indivisible en son essence, se manifeste, s'objective en une pluralité de phénomènes. Si la volonté est une, comme on l'a vu, ses manifestations sont multiples. Et c'est là tout le problème. Chacune des manifestations de la volonté tend à s'affirmer par la négation des autres. Vous voyez ? C'est ça qu'il va falloir comprendre. Chaque manifestation de la volonté va s'affirmer par la négation des autres. C'est-à-dire que dans toutes ces manifestations, la volonté se présente comme l'affirmation d'une énergie aveugle, d'une tendance inlassable, infatigable. Elle est, comme le dit Schopenhauer, l'expression d'un vouloir vivre qui n'a de cesse de s'affirmer. Mais de cette affirmation résulte partout dans la nature un combat pour l'existence. C'est-à-dire que cette volonté, ce vouloir vivre, inextinguible, qui constitue l'essence commune de tous les phénomènes, eh bien, ce vouloir vivre les pousse à se nourrir les uns des autres, à se déchirer, à se dominer, à se soumettre. Et là, je vais vous lire un texte. Alors, je pense, oui, je l'ai. Il est toujours page 1, en haut à droite, ligne 1 à 6, et puis après, on prendra un peu plus loin. Alors, je lis. Évidemment, on va revenir à ce texte, hein, on va commenter. Ainsi, partout dans la nature, nous voyons lutte, combat et alternative de victoire. Et ainsi, nous arrivons à comprendre plus clairement le divorce essentiel de la volonté avec elle-même. Notez bien l'expression. Le divorce essentiel de la volonté avec elle-même. Chaque degré de l'objectivation de la volonté dispute à l'autre la matière, l'espace et le temps. Je vais plus loin. Prenez ligne 15. Prenez des exemples. Ligne 15. Dans le monde animal, cette lutte éclate de la façon la plus significative. Il se nourrit des plantes et chaque individu y sert de nourriture et de proie à un autre. En d'autres termes, chaque animal doit abandonner la matière par laquelle se représentait son idée pour qu'un autre puisse se manifester. Car une créature vivante ne peut entretenir sa vie qu'aux dépens d'une autre, de sorte que la volonté de vivre se refait constamment de sa propre substance et sous les diverses formes qu'elle revêt, constitue sa propre nourriture. Et enfin, il vient la race humaine. Enfin, la race humaine, qui est arrivée à se soumettre toutes les autres, considère la nature comme une immense fabrique répondant à la satisfaction de ses besoins et finit par manifester en elle, comme nous le verrons dans le quatrième livre, et cela de la façon la plus évidente, ce divorce de la volonté. Dès lors se vérifie l'adage homo homini lupus, formule du poète Terence, le latin Terence, qui est reprise par le philosophe Thomas Hobbes dans le Léviathan. L'homme est un loup pour l'homme, c'est au niveau de l'homme l'expression de ce combat universel, mais qui est présent partout dans la nature, à tous les niveaux, à tous les degrés d'objectivation. Vous voyez ? Alors, d'où vient donc que le mal existe ? De ce fameux divorce de la volonté avec elle-même, par lequel les multiples phénomènes qui manifestent la volonté entrent en conflit les uns avec les autres, dans une incessante lutte pour l'existence. Parce que voilà, c'est ça, la réalité, c'est que vivre, l'affirmation du vouloir vivre, si elle ne rencontrait aucune limite, elle s'affirmerait sans difficulté, il n'y aurait pas de souffrance. Mais le problème, c'est que l'affirmation du vouloir vivre se heurte effectivement à l'existence des autres phénomènes. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une lutte pour l'existence qui résulte de la conflictualité, du combat universel qui règne dans la nature. Et par-delà, donc, les multiples formes que la volonté emprunte, elle est ainsi ce qui n'a de cesse de s'alimenter elle-même de sa propre substance. Je reprends l'expression de Schopenhauer, je relis un passage. La volonté de vivre se refait constamment de sa propre substance et sous les diverses formes qu'elle revêt, constitue sa propre nourriture. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme si la volonté qui est une s'auto-dévorait elle-même en quelque sorte à travers les manifestations, ces diverses manifestations. Vous voyez ? Et la meilleure illustration de cette auto-dévoration de la volonté en quelque sorte par elle-même, eh bien, nous est donnée un peu plus loin par l'exemple de la fourmi bulldog d'Australie. Regardez bien, ligne 41, la fourmi bulldog d'Australie. Je ne connaissais pas, mais Schopenhauer est quelqu'un qui lit les naturalistes. Enfin, vous savez, il est passionné par les sciences du vivant. Hein. Il s'est beaucoup intéressé à la médecine, à la biologie, etc., à la physiologie, à la paléontologie. Bon, vraiment, il est passionné par ça. Et il est passionné, c'est pas d'une manière désintéressée, parce que pour lui, ça contribue à sa réflexion philosophique. Alors, dans ce genre, vous voyez, dans ce genre, la fourmi bulldog d'Australie présente un exemple frappant. Lorsqu'on la coupe en deux, une lutte s'engage entre la tête et la queue. Celle-là commence à mordre celle-ci, qui se défend bravement avec l'aiguillon contre les morsures de l'autre. Le combat peut durer une demi-heure jusqu'à la mort complète, à moins que d'autres fourmis n'entraînent les deux tronçons. Ben, c'est comme si on vous coupait en deux, et puis il y avait une partie de vous qui se cherchait à se battre avec l'autre. Vous voyez, c'est exactement ça, cette idée-là. Et vous voyez, au fond, ce combat entre les deux parties hein, de la fourmi illustre parfaitement l'autodévoration hein, qui est celle de la volonté universelle. Hein, voilà, c'est exactement ça. Et c'est un combat universel qui n'a pas de terme. Il n'y a pas, par exemple, comme chez un philosophe comme Hegel, enfin bon, on parle un peu, il n'y a pas de conflit qui débouche sur une solution voyez, qui soit dépassable, qui soit surmontable. Il n'y a pas de dialectique, si vous voulez, chez Schopenhauer. Il n'y a pas de dialectique. Le conflit est insoluble. Le conflit, il se répète indéfiniment. Vous voyez ? Donc, alors, ici, ce qui est remarquable, c'est la façon dont Schopenhauer voyez, aborde justement ce conflit. Il ne laisse place à aucune indignation, à aucun jugement moral pour condamner le spectacle de cette lutte impitoyable qui est celui de la nature. Sa philosophie n'a pas pour rôle de déplorer, de se scandaliser, de juger moralement. Sa philosophie ne vise ni plus ni moins qu'à comprendre. Et à sa manière, Schopenhauer pourrait tout à fait reprendre la devise de Spinoza, ni rire, ni pleurer, comprendre. Vous voyez ? Et s'il est un sentiment que le spectacle de la nature peut susciter, comme il le suggère, c'est plutôt celui de l'absurdité. L'absurdité devant un tel combat, qui est sans fin, qui est sans terme. Vous voyez ? Chaque espèce est en effet comme une armée de combat, comme une armée au combat, engagée dans un conflit sans issue possible, où la victoire est seulement provisoire, et combat qui se termine inéluctablement un jour ou l'autre par la mort. Vous voyez ? Et là encore, alors je suis désolé, là j'aurais voulu le photocopier ce texte, mais je vais vous le lire, parce qu'il est très beau. Évoquant l'observation faite par des naturalistes, ces naturalistes avaient observé un nombre considérable de squelettes de grandes tortues sur une plaine dans l'île de Java. Et ces squelettes, alors comment s'expliquer ces squelettes ? Eh bien simplement, ces tortues avaient été assaillies par des chiens sauvages réunis en troupe, hein, qui les avaient tués. C'est comme ça que ces tortues, ces squelettes de statues étaient restés. Alors je vais vous lire le passage. C'est page 1081, 1082. Alors, je vous dis, c'est pas trop compliqué à comprendre. C'est cependant encore dans l'existence simple des animaux, facile à embrasser du regard, qu'on peut saisir plus aisément le néant et la vanité des efforts de tout le phénomène. La variété des organisations, la perfection des moyens qui servent à conformer chacune d'entre elles, en vue de son milieu et de sa proie, présente ici un contraste nettement tranché avec l'absence de tout but final soutenable. À la place de cette fin, un instant de bien-être, une jouissance passagère, dont la condition préalable est le besoin, de longues et nombreuses douleurs, un combat incessant, bellum omnium, la guerre de tous, l'obligation pour chacun d'être tout tour à tour chasseur et gibier, tumulte, privation, misère et angoisse, cris et hurlements, voilà tout ce qui nous apparaît, et tout cela continuera ainsi, in secula seculorum, pendant les siècles des siècles, ou jusqu'à ce que l'écorce de notre planète vienne encore une fois à éclater. Jung Hoon, alors c'est un naturaliste, raconte avoir aperçu à Java une plaine couverte d'ossements à perte de vue et qu'il prenait pour un champ de bataille. Ce n'était pourtant rien de plus que les squelettes de grandes tortues, longues de 5 pieds, larges et hautes de 3, qui, au sortir de la mer, prennent ce chemin pour aller déposer leurs œufs. Elles sont alors assaillies par des chiens sauvages qui, réunis en troupes, les renversent sur le dos, leur attachent la carapace inférieure, les petites écailles du ventre et les dévorent ainsi toutes vivantes. Mais souvent alors un tigre se précipite sur les chiens. Cette désolation se répète des milliers et des milliers de fois, d'année en année. Est-ce pour cela que naissent donc ces tortues ? Est-ce pour cela que naissent donc ces tortues ? Quel crime leur vaut un tel supplice ? Pourquoi toutes ces scènes d'horreur ? Il n'y a à cette question qu'une seule réponse, ainsi s'objective le vouloir vivre. Alors, voilà, je trouvais que ce texte était remarquable. Donc, pourquoi de telles horreurs ? Oh, pourquoi de tels massacres ? Pourquoi les guerres ? Question, hein. Pourquoi de telles souffrances ? Eh bien, pour rien. Précisément, pour rien. Ces scènes d'horreur sont d'autant plus effroyables qu'elles résultent d'un combat universel sans terme, sans raison, à l'image de la source dont ils procèdent, qui est justement ce fameux vouloir vivre, cette volonté universelle. Ainsi, le mal est d'autant plus insupportable qu'il est absurde. Il ne peut trouver aucune justification. C'est ça que veut souligner Schopenhauer. Il n'y a pas d'échappatoire. Et loin d'en chercher les raisons, loin de chercher les raisons du mal, comme le philosophe Leibniz, qui rédige une théodicée. Vous savez, une théodicée, c'est au fond une plaidoirie pour Dieu. C'est-à-dire qu'il s'agit pour le philosophe de montrer que Dieu est sage et bon, malgré la présence du mal, et qu'il n'a pas pu vouloir le mal présent, hein, puisqu'il a créé le meilleur des mondes possibles. Enfin, que le mal, en tout cas, qui existe, il se justifie si on considère l'ensemble de la création, hein, le tout du monde. Bon. Et ce genre de spéculation est destiné à nous consoler, en quelque sorte, hein, à nous réconcilier avec le monde. Eh bien, loin de chercher les raisons du mal, loin de chercher à dissiper le scandale du mal, afin de nous réconcilier avec le monde, Schopenhauer ne ménage au contraire aucune possibilité de consolation. Le mal procède d'une volonté universelle, d'une puissance cosmique aveugle, qui échappe par essence au principe de raison. Vous voyez, la question pourquoi n'a pas de sens. Il n'y a pas de justification possible. C'est comme ça. Et cette volonté universelle, elle se produit, elle s'autoproduit en permanence. Et le mal ne cessera de se répéter. Parce que ce conflit universel qui fait que les êtres vivent, hein, luttent pour leur existence, ben, il va se répéter. Et voilà, et c'est tout. Il n'y a pas de progrès de l'histoire. Il est absolument anti-progressiste. Vous voyez, il est hostile. Le progressisme pour Schopenhauer relève justement de cette philosophie optimiste, qui est celle de Leibniz. Quand on déplace le champ du problème, c'est au niveau de l'histoire qu'on va chercher à comprendre pourquoi le mal se justifie. Hein. Bon, il y a des souffrances, oui, certes, c'est vrai. Il y a des violences, certes, c'est vrai. Mais il y a des luttes qui vont pouvoir effectivement peut-être promouvoir un monde meilleur. Vous voyez ? Ça, non. Pour Schopenhauer, c'est non. C'est clair. Alors, c'est à partir de ce tableau général de la nature qu'il faut maintenant considérer la condition humaine. Alors, ici, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, on ne peut pas isoler les célèbres pages de Schopenhauer sur le désir de sa réflexion générale sur la volonté qui constitue l'essence du monde. En vertu de son caractère incessant et aveugle, tout vouloir vivre est, comme on l'a vu, une lutte incessante pour l'existence. Eh bien, la condition humaine n'échappe pas à cette loi. Elle n'échappe pas à cette loi. Et loin de lui permettre d'y échapper, la conscience de l'homme en fait, au contraire, l'épreuve la plus intense. Car c'est en l'homme que la souffrance est la plus grande. C'est ça qu'il faut comprendre. Non pas parce que la conscience engendre la souffrance, c'est pas ce que dit Schopenhauer, il ne dit pas que c'est la conscience qui engendre la souffrance, mais la conscience accroît la souffrance en la rendant plus vive, plus visible, plus intense. Et loin de nous libérer de la souffrance et du malheur, comme par exemple prétend un philosophe comme Spinoza, eh bien, le savoir et les lumières les renforcent. Le savoir et les lumières, vous voyez, ne permettent pas aux hommes de se libérer du malheur, de la servitude, pour, en quelque sorte, s'épanouir. Non. Ça, c'est ce que dit Spinoza, par exemple. Hein. Eh bien, pour Schopenhauer, ce n'est pas le cas. Et Schopenhauer, d'ailleurs, cite ici assez volontiers une formule tirée de l'Ecclésiaste, un grand livre de la Bible, qui accroît sa science, accroît aussi sa douleur. Qui accroît sa science, accroît aussi sa douleur. Hein, c'est une formule tirée de l'Ecclésiaste. Alors, d'ailleurs, je vous trouvais ce texte, je l'ai photocopié, ça se trouve page 2, ligne 41, canon, 44, 45. Vous l'avez là. Alors évidemment, ce que je viens de vous dire mérite une explication. Et cette explication vous est donnée au paragraphe 56 du livre 4, qui est le dernier livre du monde comme volonté, comme représentation. Vous savez qu'il y en a 4. Et c'est dans le quatrième livre que vous aurez effectivement un examen de la condition humaine et une analyse du désir. Cette quatrième partie se présente dès son ouverture, au chapitre 53, ou paragraphe 53, comme la partie la plus importante de l'ouvrage. Car il y est question de ce qui nous importe le plus, à savoir la pratique de la vie. Je cite Schopenhauer, « Pratique de la vie, question qui concerne directement chacun d'entre nous et devant laquelle nul ne demeure étranger ou indifférent. » C'est ce que dit Schopenhauer au début du livre 4. Alors, pour éclairer la condition humaine, il est d'abord nécessaire de comprendre la place de la souffrance qui la caractérise en vertu du degré que l'homme occupe dans l'échelle des êtres. Vous voyez ? C'est ça qu'il va falloir comprendre. L'homme est ainsi le degré d'objectivation de la volonté qui, en même temps qu'il s'élève à la conscience et à la réflexion, introduit le maximum de souffrance. Vous voyez ? Et s'il est vrai que le combat universel de la volonté avec elle-même est déjà à l'œuvre au degré les plus primitifs de la nature, aucune souffrance n'y est encore ressentie dans les plus bas degrés, dans les degrés les plus primitifs de la nature. Vous avez un combat, mais il n'engendre pas de souffrance. Aucune souffrance n'est ressentie parce qu'on est dans l'inconscience. Et c'est toujours de manière insensible que les êtres y sont dominés ou détruits. Prenez le texte qui se trouve page 2, ligne 26 à 29. Pas le premier, hein, celui qui est après. Ligne 26 à 29, on va regarder ça. Et j'ai souligné la première phrase. « Car à mesure que la volonté revêt une forme phénoménale plus accomplie, à mesure aussi la souffrance devient plus évidente. Dans les plantes, pas de sensibilité encore. Pas de douleur par suite. Chez les animaux les plus infimes, les infusoires et les radiés, à peine un faible commencement de souffrance. Même chez les insectes, la faculté de recevoir des impressions et d'en souffrir est fort limitée encore. Il faut arriver aux vertébrés, avec leur système nerveux complet, pour la voir grandir, et du même pas que l'intelligence. Ainsi, selon que la connaissance s'éclaire, que la conscience s'élève, la misère aussi va croissant. C'est dans l'homme qu'elle atteint son plus haut degré. Et là encore, elle s'élève d'autant plus que l'individu a la vue la plus claire, qu'il est plus intelligent. C'est celui en qui réside le génie qui souffre le plus. Génie comme Schopenhauer. Alors finalement, plus on est stupide et plus on est heureux. Hein. C'est un fait. Hein. Hein. Bah oui. Là, vraiment, l'intelligence, la connaissance, bon, c'est grandiose, c'est magnifique, mais ça augmente votre souffrance. Alors évidemment, conception. Que ne partagerait pas un philosophe, par exemple, comme Spinoza, loin de là. Hein. Et là, il y aurait un débat, une discussion à mener, mais bon. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la souffrance émerge vraiment seulement au niveau des vertébrés. Puisque, avec les vertébrés, vous avez un système nerveux. Et vous savez que Schopenhauer ne considère pas la conscience séparément de son soubassement corporel, de son soubassement nerveux, hein. Et comme l'a expliqué déjà aussi Schopenhauer dans les pages précédentes, les animaux ne souffrent encore que du présent. Il y a une souffrance animale, mais Les animaux souffrent essentiellement du présent. Ils ignorent les craintes produites par la représentation du passé ou celle du futur. À l'inverse, par la raison justement dont ils disposent, l'homme va au-delà du présent et du cadre restreint de la sensation actuelle. Mais par là, précisément, il devient la proie d'une souffrance morale plus accablante encore que toute souffrance physique. Et là, alors je suis désolé, je n'ai pas non plus photocopié ce texte, je vais vous le dire. C'est page 379, paragraphe 55 du livre 4. Il est dans l'alias de texte que je vous ai envoyé en fichier joint. Voici ce que dit Schopenhauer. La cause de notre douleur, comme de notre joie, est ainsi le plus souvent hors du présent, de l'actuel. Elle réside dans des pensées fort abstraites. Ce sont elles, ces pensées, qui souvent nous accablent de leur poids et nous infligent ces tortures auprès desquelles toutes les souffrances de la nature animale sont bien peu de choses. Ne nous font-elles pas à nous-mêmes oublier nos douleurs physiques ? Dans nos grands chagrins moraux, n'allons-nous pas jusqu'à nous imposer quelques peines corporelles dans l'espoir qu'elles détourneront notre attention ? Voilà pourquoi, aux heures de détresse, nous nous arrachons les cheveux, nous nous frappons la poitrine, nous nous déchirons le visage, nous nous roulons à terre, autant d'artifices violents pour délivrer notre esprit d'une pensée qui l'écrase. On préfère avoir mal physiquement plutôt que, hein, que d'avoir mal. Bon. Ainsi, puisque c'est en l'homme que la souffrance est la plus intense et la plus évidente, eh bien, Schopenhauer peut conclure justement le fameux paragraphe 56 en affirmant qu'elle est au cœur de l'existence humaine. Au fond, exister, c'est fondamentalement souffrir. Il écrit « La souffrance est le fond de toute vie. » Alors évidemment, voilà, la souffrance est le fond de toute vie. C'est ce que l'on appelle le pessimisme philosophique de Schopenhauer. Alors ici, attention, oh, je vous vois venir. Vous pourriez penser que la thèse de Schopenhauer relève d'un parti pris discutable, qu'elle est plutôt le reflet d'une personnalité tourmentée, l'expression d'une vision du monde purement subjective, celle d'un homme aigri, incapable de savourer l'existence, et qui ne voit partout que de la souffrance. Bah, vous pourriez penser ça, hein. Bon. Ce ne serait pas complètement faux. Mais attention, cependant, l'explication psychologique, même si elle est tentante, n'est pas valable tout de même. Parce que la thèse de Schopenhauer ne peut pas être réduite à l'expression de sa psychologie. Hein, c'est vrai. Elle se présente comme une thèse philosophique que Schopenhauer prétend étayer par des arguments. Donc il faut la prendre au sérieux, il faut la considérer et la considérer dans ses arguments. Il faut examiner la teneur de ses arguments et les comprendre d'abord, parce que sinon, si on ne les comprend pas, il faut les comprendre avant de les écarter, si on doit les écarter, si on doit les contester, mais si on les comprend. Et je commencerai, alors vous avez deux, trois arguments dans les paragraphe 55, 56, 56, jusqu'à 59, vous avez une série d'arguments. Je commencerai par l'examen de l'argument le plus, je dirais, qui à première vue paraît le plus superficiel, qui est exposé au paragraphe 59. C'est un argument de type quantitatif, mais vous allez voir, ça va plus loin que ce que je vais vous en dire au départ. C'est un argument qui paraît superficiel car il peut sembler n'évoquer qu'une suite de misères humaines. Les gens pessimistes vous disent « Ah ben, vous savez, il y a plein de malheurs, hein, vous avez vu, hein, comme ils souffrent, bon, ils ne font attention qu'à ça. » Alors on pourrait penser que c'est ça. L'argument d'ailleurs se présente au départ comme un argument comptable. Il s'agit d'établir la somme des joies et des souffrances d'une vie humaine prise dans son entier. Et l'argument, d'ailleurs, est repris dans un supplément, le chapitre 56 des suppléments, qui a pour titre « De la vanité et des souffrances de la vie ». Et je cite Alors là, c'est page 5. C'est page 5. Dans le livre, c'est page 1338. Là, dans notre jeu de texte, c'est page 5. Je vous ai photocopié. Ligne 57. Attendez, bien ça. Ligne 57, est-ce que vous avez trouvé? Oui, c'est ça, c'est en haut à droite. Ligne 57 à 62. Alors, ne vous pas compliquer. Hein. Avant de prononcer avec tant d'assurance que la vie est un bien digne de désir ou de reconnaissance, c'est ce que pensent les imbéciles, qu'on veuille comparer une fois sans passion la somme de toutes les joies possibles qu'un homme peut goûter dans son existence, avec celle de toutes les souffrances possibles qui peuvent l'atteindre. À mon sens, la balance ne sera pas difficile à établir. Et le fameux paragraphe 59 attire notre attention sur l'omniprésence de la souffrance au sein de l'existence humaine. Alors là, je ne voulais pas photocopier, mais je vous le dis, c'est facile. Si l'on nous mettait sous les yeux à chacun les douleurs, les souffrances horribles auxquelles nous expose la vie, l'épouvante nous saisirait. Prenez le plus endurci des optimistes, promenez-le à travers les hôpitaux, les lazarettes, les cabinets où les chirurgiens font des martyrs. Alors cela, franchement, les chirurgiens. À travers les prisons, les chambres de torture, les hangars à esclaves, sur les champs de bataille et sur les lieux d'exécution. Ouvrez-lui toutes les noires retraites où se cache la misère, fuyant les regards des curieux indifférents. Pour finir, faites-lui jeter un coup d'œil dans la prison d'Ugolin. Ugolin, c'est un personnage de l'enfer de Dante. Hein. Dans la tour de la faim, il verra bien alors ce que c'est que son meilleur des mondes possibles. Alors évidemment, Schopenhauer vise ironiquement ici la doctrine de l'optimisme philosophique qui est défendue par le philosophe Leibniz. Mais Schopenhauer ne s'en tient pas superficiellement à un bilan comptable. Ce serait un peu limité tout de même comme argument. Non, si la somme des souffrances l'emporte sur celle des joies, cela ne s'explique pas en premier lieu par les obstacles que la vie rencontre sur son chemin. Cela s'explique plus profondément par la faiblesse et l'insuffisance des facultés et des organes dont la nature a doté les animaux, et aussi les hommes, pour se maintenir en vie. Et là, regardez bien page 6. Page 6, le texte qui se trouve page 6, en haut à gauche. Ligne 42 à 40. À 53. Ligne 42 à 53. Alors, vous avez trouvé ? En fait, de facultés et d'organes, les animaux ont reçu tout juste le nécessaire pour soutenir leur vie et nourrir leur progéniture. Et cela sous condition des plus pénibles efforts. Ainsi, un animal vient-il à perdre un membre ou seulement le complet usage de ce membre, il est presque toujours condamné à périr. La race humaine elle-même, quelques puissants instruments qu'elle possède, dans l'intelligence et la raison, vit pour les 9 dixièmes dans une lutte constante contre le besoin, toujours sur le bord de l'abîme, et ne conservant l'équilibre au-dessus du gouffre qu'au prix de 1000 efforts. Alors, soit dit en passant, si un dixième de la race humaine se trouve épargné d'une lutte constante contre le besoin, Schopenhauer nous explique que c'est parce qu'elle vit du détournement de la force des 9 dixièmes des autres, qui se trouve exploitée. Ah, il faut bien que pour vivre confortablement, il faut bien que d'autres souffrent à notre place, hein, et qu'on puisse utiliser leur force. Enfin, c'est comme ça. Hein. Bon. Il y a dans le texte de Schopenhauer, et Dieu sait qu'il n'a aucune vision politique des choses, il y a des remarques assez sur le prolétariat qui sont assez, on pourrait presque dire marxistes, vous voyez. Il y a une exploitation de l'homme par l'homme. Hein, ça ne marche que comme ça. Alors, donc, vous voyez, ce que veut dire ici, donc, de manière générale, en tout cas, Schopenhauer, c'est que la nature est loin d'être prodigue. Elle est loin d'être bienveillante. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas plus opposé à Schopenhauer que Rousseau. Je pensais à Rousseau l'autre jour en écoutant Yann Mouton. Pour Rousseau, finalement, la nature est bonne, pas au sens moral du terme, hein, mais au sens où elle assure un équilibre. Si on se contente de satisfaire des besoins élémentaires, on a les forces qui nous permettent de les satisfaire. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Le déséquilibre, il vient au fond d'une civilisation qui va augmenter de façon démesurée la production, vous voyez, sans contrôle aucun, par exemple. Vous voyez, mais la nature en elle-même est le lieu d'un équilibre. La nature n'est pas avare. Hein. Si on se contentait de vivre en satisfaisant des besoins naturels, eh bien, la nature nous offrirait des biens en abondance. La rareté est, au fond, introduite par l'homme, en quelque sorte. Vous voyez ? Eh bien, ce n'est pas du tout ce que dit Schopenhauer. Pour lui, Schopenhauer, il y a un déséquilibre. Hein, l'homme n'a pas les moyens en lui-même, son organisme est défaillant, il est faible, il est incapable, au fond, en tout cas, il est difficilement capable de subvenir à tous ses besoins. Vous voyez ? Et donc, et d'ailleurs, et voilà ce qui est intéressant, ce qui est vrai d'ailleurs de tout organisme qui souffre d'un déficit naturel, c'est vrai du monde entier, comme l'explique Schopenhauer dans le même texte. Et vous voyez, on va lire ici le passage. « Ainsi de même que l'organisme a tout juste de quoi se maintenir en vie, et bien de même, regardez bien page 5, à droite, ligne 7 à 12. En bas, dans le texte qui est en bas à droite, ligne 7 à 12. Alors, un passage assez étonnant. Or, ce monde a été disposé tel qu'il devait être pour pouvoir tout juste exister. Serait-il un peu plus mauvais qu'il ne pourrait déjà plus subsister ? Par conséquent, un monde pire, étant incapable de subsister, est absolument impossible. Et des mondes possibles, notre monde est ainsi le plus mauvais. C'est assez comique même, le texte. Parce qu'on a bien compris ici que le pessimisme de Schopenhauer se présente comme un renversement de l'argumentation de Leibniz. C'est vraiment... Il y a quelque chose... Il y a un jeu, hein, d'une certaine manière, de la part de Schopenhauer. Et Sandeus a renversé l'argumentation de Leibniz, du philosophe optimiste Leibniz. Alors, essayons simplement de présenter les choses. Que dit Leibniz ? Le mal existe. Nous sommes tentés de mettre en accusation Dieu, hein, puisque la présence du mal nous révolte. Hein, nous sommes tentés d'accuser Dieu, finalement, d'avoir voulu le mal. Bon. Comment ce Dieu tout-puissant et bon a-t-il pu vouloir l'existence du mal ? C'est ça le scandale. Et le philosophe, donc, se fait l'avocat de Dieu. Il écrit une théodicée. Et pour comprendre la présence du mal, que dit-il ? Ben, il faut considérer le tout, il faut considérer le monde dans sa totalité, et un monde, il doit concilier des parties. Et un monde dont serait totalement exclu le mal serait tout simplement impossible. Donc la présence du mal a une justification, si vous voulez. Son existence contribue à la composition du monde, voyez ? Alors, malgré la présence du mal, bah, notre monde constitue le meilleur des mondes possibles, le seul qui ait pu vouloir, effectivement, un Dieu providentiel. Vous voyez, c'est comme ça, enfin, je résume très grossièrement, c'est comme ça que Leibniz raisonne. Eh bien, que répond Schopenhauer ? Bah, que pire que notre monde, c'est impossible. Car un monde pire, c'est un monde qui aurait été incapable de subsister, comme un organisme qui aurait perdu, vous savez, un organe, hein, central. De sorte qu'entre tous les mondes possibles, eh ben, c'est notre monde qui est le plus mauvais. Vous voyez, c'est... réponse du berger à la bergère. Alors, et comme il l'explique d'ailleurs ensuite, et de façon très sérieuse, qu'une quelconque des perturbations qui l'affectent s'accroisse, et le monde serait amené à bref délai à sa fin. Le déficit des moyens dont dispose le monde, tout comme le déficit naturel qui caractérise l'organisme, eh bien ce déficit des moyens dont dispose le monde le suspend ainsi constamment au-dessus de l'abîme du non-être, au-dessus du gouffre en quelque sorte. Et là, regardez bien, page 6, prenez la page 6, et on arrive à la fin de mon propos de ce soir. Regardez bien, je trouve ça, le texte est assez beau d'ailleurs, encore une fois, et puis alors là, les écologistes, ils auraient de quoi franchement trouver que Schopenhauer est génial. Regardez bien, page 6, parce que voilà, ligne 37 à 42. D'abord, alors en haut, on commence en haut. Une faible altération de l'atmosphère. Nous y sommes. Chimiquement même indémontrable, produit le choléra, la fièvre jaune, la peste noire, etc., qui enlève des millions d'hommes. Une altération quelque peu plus grande suffirait à éteindre toute vie. Une élévation très moyenne de la chaleur dessécherait les fleuves et tarirait les sources. Alors franchement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein ? Ensuite, regardez la suite. Prenez la ligne 54 ou 53. Partout ainsi, qu'il s'agisse de l'individu isolé comme de l'ensemble, les conditions d'existence ont été mesurées avec une étroite économie, sans jamais rien de superflu. Voilà pourquoi l'existence individuelle s'écoule dans un combat incessant pour la vie, au milieu de menaces de destruction qui l'accompagne à chaque cas, à chaque pas. Et parce que ces menaces se réalisent si souvent, voilà pourquoi il a fallu pourvoir, par une incroyable surabondance de germes, à ce que la destruction des individus n'entraîna pas celle des espèces, auxquelles seule la nature prend un sérieux intérêt. Le monde est par conséquent aussi mauvais qu'il lui est possible de l'être, étant admis d'une façon générale qu'il doit être encore. Bon, donc voilà, ça c'est du Schopenhauer. Alors, et d'ailleurs, Schopenhauer non seulement critique dans son texte les mythes, bon, mais il s'en prend aussi à Rousseau. Et là, peut-être, bon, j'aurai pas le temps d'en parler, mais vous savez, il y a eu une controverse entre Rousseau et Voltaire à propos du fameux désastre de Lisbonne en 1755, catastrophe, hein, le fameux tremblement de terre qui a complètement, mais qui a tué des milliers de gens, hein, à Lisbonne. Alors, il y a toute une controverse. Alors, pour Voltaire, qui est au fond, le Schopenhauer se reconnaît en Voltaire. Hein. Pour Voltaire, qui écrit un poème, au fond, qu'est-ce que c'est que le tremblement de terre de Lisbonne ? Ben, c'est le rappel que la civilisation peut être terrassée par les éléments naturels déchaînés. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Rousseau, lui, il est... Hop, pou, 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 pou. Attention. Non, dites donc, vous aviez construit des immeubles, des habitations à 7 étages, hein, dans une ville complètement, hein, des habitations complètement concentrées. Si le tremblement de terre avait eu lieu dans le désert, il n'y aurait pas eu autant de catastrophes, pas autant de morts. Mais c'est parce que vous faites des villes qui sont construites de telle sorte que forcément, il y a une densité énorme avec des étages qui ne peuvent que s'effondrer. Donc, ce sont plutôt... si vous voulez, la nature est bonne, hein, si vous voulez, la nature, c'est... Bon, c'est plutôt la civilisation qui, en quelque sorte, la corrompt, hein, s'en écarte. Bon, je simplifie très grossièrement. Et oui, Schopenhauer, effectivement, fait et cause pour Voltaire et s'en prend, effectivement, au discours de Rousseau qui, lui aussi, à sa façon, défend une sorte de... Je dirais de théodicée, mais de théodicée naturelle. La nature est un principe d'ordre. La nature a bien fait les choses, voyez. Donc c'est l'homme qui introduit en quelque sorte du désordre, hein, par ses constructions, par sa civilisation. Bon, donc vous voyez, vous avez tout un débat là-dessus, hein, et au fond, Schopenhauer s'inscrit à la suite de ce débat. Alors, ça c'est l'argument quantitatif. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a un autre combat, un autre argument qui va être, lui, très important, qui va porter sur l'analyse du désir, qui va consister à montrer que le désir est essentiellement souffrance. Essentiellement souffrance. Que le plaisir en lequel consiste sa satisfaction, non seulement n'est rien de durable, mais il ne permet aucune satisfaction réelle. Et pourquoi? Oui, c'est bien, c'est pas, je ne suis pas là pour vous dire des choses agréables. Hein. Bon, donc, et on va essayer de comprendre pourquoi. Moi, franchement, je trouve que c'est un beau texte, un très beau texte, très intéressant, et évidemment, qui donne à réfléchir, hein, qui n'est pas là pour vous plaire, hein, c'est pas là pour vous être agréable, mais moi, j'aime beaucoup Schopenhauer, et donc, je crois que ça mérite vraiment de lecture, hein. Bon, voilà, j'en resterai là pour aujourd'hui. Voilà. Oui.
Alors, Schopenhauer décrit un monde figé, mais fragile. Ce qui est presque contradictoire, parce qu'on a l'impression au début que le monde n'a pas d'histoire, non seulement on n'a pas encore pensé à l'évolution des espèces, on croit toujours que l'univers a toujours été ce qu'il était, qu'il n'a pas d'histoire en quelque sorte. Il n'y a pas, par exemple, de place pour le socialisme, c'est du pipeau, c'est inutile d'en rêver, mais en même temps c'est prémonitoire. Des catastrophes écologiques anciennes.
Alors, je crois qu'il faut peut-être que je reformule les choses.
Oui.
S'il y a une histoire, c'est jamais pareil en un sens. Hein. C'est vrai que la civilisation évolue, il y a un progrès des techniques, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas, et qu'il n'y a pas de devenir. Il y a un devenir. Mais fondamentalement,
mais pas pour la condition.
C'est pareil. Ouais. C'est que il y a un conflit universel qui constitue la nature, qui est permanent, qui est incessant, et qui va s'exprimer de façon variable, et que finalement c'est toujours la même chose d'une autre manière. Il utilise même une formule latine, je sais plus, semper, enfin je sais plus, il faudrait que je retrouve la formule latine qu'il cite souvent, lui dit au fond, oui, ça change en apparence. Mais c'est toujours pareil. Fondamentalement, c'est la même chose.
Et là, il me semble que ce sont les idées qui me semblent.
Ah oui, alors, par contre,
moi, j'aurais tendance à penser que les idées peuvent être changeantes.
Ah non, mais non, parce que les idées telles qu'il les emploie, c'est au sens de Platon, ce sont des réalités fixes, intelligibles, éternelles. Hein, les idées, ce sont des. C'est-à-dire que les exemplaires, hein, qui se rapportent à elles, eux, sont éphémères, sont changeants. Les hommes, par exemple, concrètement, ils naissent, ils meurent, ils changent, ils disparaissent, enfin bon. Mais ils sont toujours des hommes. L'humanité demeure en tant que forme, en tant qu'idée.
C'est un peu discutable. Alors,
là, je ne rentre pas effectivement. Un théoricien évolutionniste dirait qu'il n'y a pas de fixité des espèces, il y a aussi une histoire des espèces. Bon, ça, je suis d'accord. Mais essayons d'être Schopenhauerien. Et, si vous voulez, pour lui, effectivement, il y a des degrés d'objectivation qui sont permanents, qui sont effectivement de l'ordre de la permanence, de la constance. Ce sont les idées. Ce sont les formes.
Et on se demande d'où elles sortent, en quelque sorte, ces idées par rapport à cette poussée aveugle.
Ça reste aveugle de toute façon, cette poussée. Elle s'exprime, elle se matérialise en des formes,
oui,
en des espèces, qui ont une constance. Qui ont une constance.
On a du mal à voir.
Oui, c'est pas évident. C'est la forme générale des phénomènes. Une forme générale. C'est un prototype.
C'est un prototype.
un prototype, si on peut dire. Mais c'est pas, par contre, c'est pas quelque chose d'évanescent, c'est pas quelque chose qui est soumis au temps. C'est quelque chose d'éternel. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui, en ce sens-là, échappe aux phénomènes. Parce que les phénomènes sont dans le temps. Hein? Donc là, c'est... Oui, alors c'est vrai que c'est pas évident comme, comme notion. Hein? Ça mériterait peut-être... j'ai été très rapide.
Je demande où c'est écrit, en quelque sorte.
Ah, c'est écrit... ça se manifeste. Ouais. Effectivement, il se trouve que tous, nous qui sommes ici, nous sommes des êtres humains. Nous participons de l'idée d'homme. En ce sens-là, nous sommes tous des spécimens, je dirais des exemplaires individuels de cette idée qui nous constitue, cette espèce, au fond, qui nous constitue. Oui.
Mais c'est pas une création
d'esprit. Alors, non. Allez-y, ouais. Oui, alors. Hop. Dans l'ordre.
La volonté, donc, dans son unité, se multiplie. D'accord.
Oui.
Donc, les idées sont aussi une manifestation de la volonté.
Oui.
D'accord. Et les idées ne viennent pas.
Alors, non, mais j'en reconnais que ça, c'est un point délicat que moi, je n'ai pas non plus spécialement énormément creusé. Je lis ça comme ça. C'est pas évident. Bon, je l'ai pris comme ça, hein, si vous voulez. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, les idées sont éternelles, si on comprend bien. Hein. Donc, elles échappent au devenir. Hein.
Oui, c'est ce qu'il peut.
Enfin, donc, elles ne sont pas de l'ordre phénoménal. Par contre, elles structurent les phénomènes.
Voilà. C'est-à-dire qu'il veut les sortir, en fait, de même du phénomène.
C'est ça.
C'est-à-dire du temps et de l'espace.
Oui, elles sont dehors de l'étang et de l'espace et du temps.
Mais il y a quand même...
C'est pour ça que, par exemple, quand il parle des lois de la nature, elles relèvent justement de ces idées. Ce sont des lois générales qui ne sont pas elles-mêmes soumises au temps et à l'espace. Même si les phénomènes qu'elles conditionnent sont, eux, dans l'espace et le temps.
D'accord.
Donc, il y a un étagement, là, effectivement. Bon, là, je reconnais ma connaissance limitée de Schopenhauer à ce niveau-là.
Une faiblesse, peut-être, dans son...
Ah oui, c'est peut-être discutable, effectivement. C'est peut-être... Bon, c'est assez... Bon, c'est opératoire, ça. On comprend.
Ah, oui.
Je crois que c'est pas compliqué à comprendre.
Non.
Mais... Ça rend. On est un peu dubitatif.
Ça rentre un peu dubitatif.
Oui, je suis d'accord. Et vous vouliez dire aussi.
Non.
Et alors, allez-y.
L'idée de cercle, par exemple, est quelque chose d'éternel, c'est ça que vous voulez dire ?
Alors, sauf que le cercle, c'est pas une réalité sensible. Alors, c'est vrai qu'il ne parle pas tellement des êtres mathématiques, hein, des réalités. Mais c'est vrai que le cercle, oui, moi, c'est une idée éternelle, oui, en un sens, oui. Mais là. Quand il parle des idées, il s'agit d'idées sous lesquelles se rangent des êtres qui sont sensibles. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le chat, le chien, Médor, bon, est un chien qui, se range sous l'idée de chien.
Est-ce que c'est équivalent au concept ?
Non, parce que le concept, c'est une élaboration... de la raison que nous faisons, que nous établissons. C'est notre activité intellectuelle qui élabore des concepts. Est-ce que les idées, ce sont des réalités qui s'imposent à nous. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention à maintenir la majuscule. Quand Platon parle d'idées, pour lui, ce sont vraiment des réalités. Et c'est la seule véritable réalité pour Platon. Elle est idéale. Puisque, au fond, les choses sensibles, elles ne sont pas, puisqu'elles naissent, elles périssent, hein, elles deviennent. Donc, ce qui seul est, c'est ce qui est toujours. Et ce qui est toujours, c'est ce qui est uniquement de l'ordre de l'idée, de l'idéal. Hein, vous voyez ? Donc, il y a quelque chose de platonicien chez Schopenhauer, en ce sens-là. Vous voyez ? Ce sont des formes permanentes. Hein, des structures permanentes qui s'imposent à nous, qui ne sont pas des élaborations conceptuelles. voyez. Les élaborations conceptuelles, ce sont des représentations sur lesquelles nous travaillons par notre esprit. C'est autre chose. Alors là, franchement, oui. Bon, là, si vous me dites que ça vous paraît bizarre, que c'est discutable, que là, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Mais je me dis toujours, si vous voulez, quand quelque chose, c'est un philosophe que je n'arrive pas bien à comprendre, c'est un philosophe, c'est peut-être que moi, je n'ai pas assez bien compris. Je préfère me dire ça. Hein? Non, mais c'est vrai, parfois, on fait une critique un peu rapide, tout simplement parce qu'on n'a pas assez bien compris. Donc, je préfère... C'est pas de la modestie, hein? c'est une forme de... si on veut comprendre, on ne peut pas faire autrement. Hein? Sinon, on règle vite ses comptes à un auteur à partir de l'idée qu'on s'en fait un peu spontanément, comme ça, ça ne va pas. Donc, je vous ai exposé les choses telles qu'elles me sont apparues, hein, mais sachant bien que... Il y a deux choses qui chez Schopenhauer, font problème. Il y a, d'une part, la fameuse analogie dont on avait parlé, à partir de laquelle... À partir de la perception intime de mon corps, j'en viens à l'intuition, hein, au principe d'une volonté universelle. Bon, pas évident. Hein. Bon, alors, je suis pas entré dans... Je vais pas passer des heures là-dessus, mais c'est vrai que Schopenhauer dit les choses d'une façon beaucoup plus fine que ce que je vous en ai dit. Bon. Mais ça pose problème tout de même. Et puis, alors, ces fameux degrés d'objectivation... ces fameuses idées qui structurent effectivement les réalités particulières que sont les phénomènes. Alors, ça va jouer, mais c'est vrai que là, j'ai pas abordé, ça va jouer un rôle considérable, très important dans l'esthétique de Schopenhauer. Parce que l'artiste, c'est celui qui est capable justement de contempler une idée. Ça va jouer un rôle important. Ouais, donc, c'est pas. Parce qu'effectivement, s'il y a un aspect très important de la philosophie de Schopenhauer, c'est son esthétique. Et ça, ça joue un rôle important. C'est vrai. Mais j'en ai pas parlé.
Est-ce qu'il y a des disciples de Schopenhauer qui ont essayé d'intégrer le fait que le monde évolue que chez lui, comme on l'a vu.
Le monde évolue, forcément. Mais il y a des constantes, des permanences, des choses qui sont au-delà. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de la représentation n'évolue pas. Tout ce qui est, tout ce qui est de l'ordre du phénomène change en permanence. Il y a le passé et le temps. Mais ce qui est soustrait à l'espace et au temps, ce qui est de l'ordre de l'idée, est soustrait à l'espace et au temps. Et permanent. Oui, bon, je m'exprime peut-être pas de façon limpide, mais oui, il y a l'idée. Alors, est-ce qu'il y a des disciples de Schopenhauer Il a marqué profondément la pensée. Hein. Je veux dire, encore une fois, il est considéré comme un philosophe qui... Tout discutable qu'il est, avec ses faiblesses, a beaucoup marqué l'histoire de la philosophie. Il a rendu possible la philosophie de Nietzsche, il a rendu possible la psychanalyse de Freud, etc. Il a marqué profondément les artistes. Maintenant, est-ce qu'il y a... Enfin, non, il n'y a jamais tel quel un disciple. De toute façon, Schopenhauer était un homme qui ne cherchait pas à avoir des disciples. Si on peut dire. Il n'avait qu'un seul amour dans sa vie, c'était son petit caniche. D'ailleurs, il avait plusieurs caniches qu'il appelait Asma. Ça veut dire peut-être la forme Asma devait être permanente. Par contre, les différents caniches qui se succédaient dans le temps... Il s'appelait toujours Atma. C'était lié, hein, je ne sais pas.
L'amour, c'est l'infini à la portée des canuts.
Voilà. Alors, on n'a pas encore parlé de l'amour. Hein. Avec tout ça, c'est pas encore parlé de l'amour. Mais ce que nous disons là va servir pour ensuite aborder. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, ce sont des textes qui paraissent bizarres. Ben, les textes de Schopenhauer sur l'amour, sur la mort, sur le désir, ne peuvent que paraître déconcertants à quelqu'un qui n'a pas compris la philosophie d'ensemble de Schopenhauer. Et risque à ce moment-là de pas comprendre ou de faire des contresens assez grossiers. Quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'une philosophie, ça se comprend dans son ensemble. On essaie de comprendre le mouvement. On essaie de comprendre le mouvement d'ensemble. Mais ça slippe les amants. Vous n'êtes pas convaincu. D'autres questions ? Une dernière ? Oui.
Dans le dernier texte que vous avez lu, partout, ainsi qu'il s'agit de l'individu isolé comme de l'ensemble, les conditions des existences ont été mesurées. Quand le terme ont été mesurés, on a l'impression qu'il y a une intention malveillante.
Attendez, il faut que je retrouve le texte alors.
C'est page 6.
Page 6.
1536 à. Les conditions d'existence ont été mesurées avec une étroite économie. On a l'impression qu'il y a une invention.
Ah oui, c'est vrai, c'est une façon de dire effectivement qui peut prêter à équivoque.
J'ai l'impression d'une volonté qui n'est pas aveugle, mais qui est au contraire malveillante.
Oui, plutôt malveillante, oui. Oui, la nature est assez malveillante. Hein. Enfin, en tout cas, elle est chiche. Hein. Elle vous donne le minimum. Hein. Non, mais là, il y a. Le problème est de savoir. Jusqu'où l'intention polémique de Schopenhauer ne l'amène pas justement à utiliser un discours qui peut effectivement presque donner l'impression qu'il prête une intention malveillante à la nature. Alors qu'il n'y a pas d'intention. Hein, c'est... Mais c'est vrai que jusqu'à son pessimisme, jusqu'à quel point n'est-il pas, au fond... une opération, une sorte de, est-ce que, une opération de désillusion. Enfin, est-ce qu'il s'agit pas, pour lui, vous voyez, est-ce que il est tellement, enfin, son problème, c'est de régler son compte à l'optimisme. Voilà, c'est ça d'abord qui compte. C'est de jusqu'à presque utiliser un discours finaliste aussi. Et prêter comme une intention, hein, effectivement, à la nature. Alors que non, elle n'en a pas. En toute rigueur, elle n'en a pas.
Mais son pessimisme vient aussi du caractère un peu fataliste de sa philosophie.
Oui. Il y a un éternel retour.
Il n'y a pas de solution.
Alors, là, par contre, là... Bon, je vais arrêter là après, mais juste une remarque. Il n'y a pas de solution. Il y a des remèdes. Il y a des voies de libération. L'art, la morale et l'ascétisme. Enfin, il y a l'ascétisme, une certaine sagesse. C'est pour ça qu'il il aime les sagesses orientales, si vous voulez. Il y a des... Justement, il faut se libérer. Il faut se libérer de la volonté. Parvenir à se libérer de la volonté. Et il y a des méthodes. Ça, si, c'est pas uniquement un philosophe qui se contente de dire que, au fond, la volonté est la source du malheur de l'existence humaine. Donc, il s'agit de trouver, vous voyez, des remèdes. On va dire ça comme ça. Hein. Et donc, l'art joue un rôle important. Et aussi une certaine forme de sagesse, mais. Mais il n'y a pas à s'illusionner. Hein. Chez Schopenhauer, il y a une obsession presque qui consiste à se livrer de toute forme d'illusion. Il faut absolument éviter, vous voyez, de... de tomber dans l'illusion. Non, mais non, c'est pas, il ne s'agit pas de faire un constat uniquement. Hein. Mais c'est vrai que c'est l'absurde qui règne dans l'existence. C'est pas là. Et il est hostile au suicide. Il ne préconise pas le suicide. Il ne dit pas qu'il faut se flinguer. Pas du tout. Au contraire, il faut vivre joyeusement. Mais vous voyez, c'est pas un bon vivant. Mais bon, pas d'illusion sur la vie, sur l'existence. Là, je suis un peu limité dans mes réponses. Il faudra que nous voyions ça la prochaine fois.